La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui se souvient aujourd'hui que nous sommes en 2018, mais qui va reculer un petit peu dans le temps, à deux échéances différentes d'ailleurs, puisque nous allons parler d'un roman qui s'appelle 1984 et qui a 70 ans, puisqu'il est paru pour la première fois en 1948. Un roman de George Orwell qui, en 1948 ou peu après, a été traduit, il y a donc presque 70 ans, et qui vient d'être retraduit par José Camoun dans cette nouvelle traduction qui paraît chez Gallimard. José Camoun, sa traductrice, sa nouvelle traductrice, est l'invité de la danse des mots aujourd'hui. Bonjour José Camoun, merci de venir nous parler tout à la fois de 1984 et de la façon dont vous avez repris le texte de George Orwell pour en donner donc une nouvelle traduction. Ce qui doit être un défi tout à fait particulier parce que le roman est très connu. Il a pu sembler être un roman de science-fiction au début, mais son succès et la personnalité d'Orwell fait qu'on le considère de façon extrêmement différente aujourd'hui. Et puis surtout, il a laissé des traces dans la langue anglaise peut-être, mais dans la langue française. Dans la langue française, quand on parle de Big Brother avec un accent français, avec une, on dit pas ça à l'anglaise, on dit Big Brother, tout le monde comprend plus ou moins à quoi on fait référence, c'est-à-dire à une intrusion dans votre vie, dans votre pensée, de quelque chose qui peut être soit un ennemi, soit un mari, soit une épouse, soit un gouvernement. En tout cas, c'est quelque chose d'intrusif qui se dit avec ce mot qu'on a laissé en anglais. Tout ça pour pointer le fait que 1984 a laissé des traces dans la langue. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte fortement dans cette nouvelle traduction que vous donnez de 1984?
C'est quelque chose qui m'a vivement intéressée parce que moi aussi je parle la langue courante. Et bien entendu, ce Big Brother, comme vous dites, c'est-à-dire à la française, je l'avais croisé, j'ai envie de dire, depuis toujours. La novlangue, c'est une expression courante, et la police de la pensée aussi.
Oui, ce sont vraiment les trois expressions qu'on sort de ce roman 1984 et qui sont entrées dans une langue relativement courante, avec des sens qui peuvent évoluer d'ailleurs, mais qui portent le poids de l'histoire de ces 70 ans depuis lesquels on les emploie.
Oui, et justement, je pense que c'est ça qui est assez fascinant, parce que on a l'impression, je pense que le lecteur moyen, et peut-être d'ailleurs le français, a l'impression d'une grande familiarité avec ce roman, mais en réalité on en connaît des bribes, ou on le connaît, je dirais, de seconde main, on le connaît par la conversation, et j'étais très curieuse, ça faisait partie de ce qui me chatouillait certainement dans ce travail, j'étais très curieuse de faire redécouvrir parfois découvrir le roman en tant que roman précisément, et non pas en tant que manifeste, non pas en tant que pamphlet. On sait qu'Orwell a largement exprimé ses opinions dans d'autres types d'écrits, dans des essais, dans des chroniques. Là, il écrit un roman. Et donc c'était la dimension littéraire de ce roman qui me fascinait, et aussi bien sûr je dirais l'aspect linguistique qui était largement traité, abordé, j'avais envie de dire attaqué, pas seulement dans l'appendice, mais il y a toutes sortes de considérations sur la langue à travers ce roman.
Alors José Camoun, pourquoi dites-vous pas seulement dans l'appendice? Il faut que vous nous expliquiez justement, dans ce roman dont la langue est l'un des personnages principaux d'une certaine façon, ce que c'est que cet appendice, ces quelques pages, je sais pas, il y en a peut-être une quinzaine, écrites par Orwell à la fin du roman.
Oui, et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des éditions en anglais qui ont tout simplement supprimé l'appendice. Donc ça aussi, c'est assez intéressant.
C'est étonnant, alors.
Mais bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui se passe dans l'appendice, c'est qu'Orwell, en ouvrier consciencieux, va expliquer ce que c'est que ce « newspeak » que je n'ai pas traduit par « novlangue ». Donc je vais expliquer peut-être dans un mot.
Ça sera une deuxième question. Parlez-nous un petit peu de cet appendice.
Alors, cet appendice pose toutes sortes de questions, et d'ailleurs, je dirais que moi, la question qu'elle me pose, c'est qui écrit l'appendice et quand? Parce que nous avons une sorte de discours indirect libre, sans avoir de narrateur dans l'action. mais néanmoins on est dans la conscience de Winston. Et alors à la fin, d'où est écrit l'appendice? Finalement, tout ça n'a pas marché alors? Ça pose toutes sortes de questions. Donc dans l'appendice, Orwell décrit la solution finale pour la langue. Moi j'appelle ça la solution finale. Ce n'est bien sûr pas du tout une novlangue, c'est la fin de la langue.
Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut savoir un tout petit peu de quoi parle ce 1984. Hein. Donc, écrit en 48 dans un avenir qui semblait lointain, avec cette idée un petit peu de science-fiction, il y aura une nouvelle société. Ça se passe bien en Angleterre. Ça se passe en Océanie, puisque c'est le mot qui est donné dans le roman. Mais Londres, Londres s'appelle encore Londres. Les maisons victoriennes sont encore des maisons victoriennes et Orwell imagine une sorte de gouvernement, j'allais dire néo-fasciste. C'est plus insidieux, c'est plus compliqué que ça. Un gouvernement qui va imposer une pensée unique, et qui va interdire de fait à ses citoyens de penser en substituant une nouvelle langue à la langue ancienne. Alors, à partir de là, il y a une intrigue, il y a ce Winston, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de clandestinité, il y a un vrai roman. Mais par rapport à ça, donc, Orwell écrit un appendice qui n'est pas un glossaire des mots particuliers qui seraient inventés pour les besoins du roman, mais qui est vraiment une vue beaucoup plus globale de ce que c'est que cette langue qui a été inventée par les gouvernants qu'il met en scène, ou en tout cas auxquels il fait allusion dans son roman.
Il travaille avec système et méthode, et donc il explique très bien son affaire. Ce new speak, qu'il n'a pas appelé new langue, car il aurait fort bien pu le faire, n'est pas une langue, c'est un virus qu'on introduit dans le logiciel de la langue pour qu'elle s'autodétruise. C'est ça l'idée. Hein. Et la parole, le speak, le fait de parler, la parole va tuer la langue. Et il dit des choses extrêmement précises là-dessus, d'ailleurs. Hein. C'est tout simple. Le personnage de Syme, qui va mal finir, comme chacun sait. Au fil des ans, dit Syme, on aura de moins en moins de mots et le champ de conscience rétrécira à proportion. Aujourd'hui déjà, il n'y a pas de raison ni d'excuse au manteau crime, ce n'est qu'une question d'autodiscipline. Mais à terme, nous n'aurons même plus besoin de ça. Il n'était jamais venu à l'idée qu'il ne restera plus un être humain en 2050 qui soit en mesure de comprendre la conversation que nous sommes en train d'avoir. Donc ça supprime la conscience. On va parler, mais on ne va pas faire sens. Voilà pourquoi ce « new speak », je l'ai traduit presque littéralement, et en tout cas consciencieusement, par néo-parler. Le mot novlangue m'intéresse beaucoup et je vais l'utiliser, continuer de l'utiliser dans la conversation courante. Vous l'évoquiez très bien hier dans votre émission sur les jargons de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est la novlangue. Au passage, Aurélie Audiberti, la première traductrice, n'avait pas dit la novlangue. Elle avait écrit le novlangue.
Oui, bien pour désigner que c'était un l'avais bio. Oublié. Moi et aussi. C'est en préparant cette émission que je me suis dit, tiens, mais comme c'est bizarre. Moi qui, comme vous, comme beaucoup de gens, nous parlons de la novlangue parce que c'est un concept et c'est un mot qui est apparu dans le français d'aujourd'hui.
Parce que c'est une très bonne trouvaille.
Et oui. Et dans le roman d'Orwell, traduit donc par Amélie Audiberti, il est question du novlangue.
Bien sûr. Ouais, parce que c'est un idiome. Donc elle voulait, et ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, vulgarisé, qui est une facilité de langage, comme ce mot novlangue ou police de la pensée. En réalité, c'est la solution finale des mots, donc c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux, programmatique, et c'est pas cette chose empirique, idéologique certes, mais empirique, qu'est les technologues de l'entreprise, le politiquement correct et autres. Il s'agit d'une entreprise comme la Shoah, c'est la solution finale. Voilà. Pour tuer les mots.
Alors, vous, ça vous met dans une position tout à fait particulière, puisque vous le dites vous-même, vous employez encore ce mot de novlangue qui est devenu un mot du français, peut-être pas le plus courant, mais qui existe. Et en même temps, dans votre nouvelle traduction d'Orwell, vous avez choisi néo-parler.
Oui, mais c'était à peine un choix.
Et donc les deux mots coexistent dans votre langage, dans votre tête, là.
Absolument, absolument. Mais je comprends bien que d'aucuns aient été troublés par cette nouveauté. Et je me suis entendu dire, mais vous n'avez pas gardé novlangue. Retraduire, ce n'est pas faire le tri. Retraduire, c'est partir de zéro et traduire comme si on n'avait jamais traduit le roman. Donc, c'est deux choses
oui
différentes.
Et oui et c'est non, je suis d'accord. Partir de zéro, je vous interromps juste pour revenir à ce Big Brother, parce que il y a eu une vraie vie non seulement du roman 1984, mais d'un certain nombre de mots qui ont une fortune extraordinaire. Big Brother, c'est tout à fait étonnant, parce que dans le livre traduit par Amélie Audiberti, c'est le seul anglicisme qui sort, on ne sait pas pourquoi, trait de génie d'une certaine façon, ou enfin j'en sais rien, mais ça a eu du succès. Tout est traduit en français, comme il se doit, c'est-à-dire sans pittoresque, sans couleur locale. Et puis, il y a cette espèce de grand frère qui n'est pas traduit grand frère, mais qu'elle a gardé comme étant Big Brother, qui est passé en français.
Oui, mais alors
et ça, vous l'avez gardé.
J'ai pas pu faire autrement, pour deux raisons. La première, c'est que l'anglais devient quand même un espéranto, hein, et que tout le monde comprend Big Brother, même sans avoir fait de l'anglais. Donc, tout le monde comprend ce que ça veut dire. En revanche, ce fameux grand frère, parce que c'est pas la satire de n'importe quel totalitarisme, c'est quand même la satire du totalitarisme soviétique, avec les affiches de Staline sous la forme de Big Brother.
C'est écrit aussi juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu le stalinisme paraît être en ligne de mire, en première ligne, si vous voulez, mais le nazisme, il a 3 ans. En 48,
ouais, mais je ne trouve pas qu'on en trouve tellement d'écho dans le roman. Hein. Le roman est vraiment focalisé sur une caricature du modèle soviétique.
Absolument, mais il a été écrit et il s'adressait dans un premier temps à des gens qui avaient vécu ce que c'était que la Deuxième Guerre mondiale.
Vous avez raison, mais il s'adressait à des gens qu'il voulait prévenir contre justement l'idéologie soviétique. C'est vraiment ça sa cible. Donc pour en revenir à ça, bien sûr c'est le grand frère soviétique. Et les autres traducteurs à travers l'Europe ne s'y sont pas trompés. Ils ont tous traduit grand frère. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui si nous nous adressons aux générations qui ont maintenant 20 ans, 30 ans ? Eh bien les mots grand frère ne vont pas du tout allumer dans leur esprit bien le sûr. Grand frère soviétique. Donc je me suis dit que pour toutes ces raisons, il fallait vraiment garder Big Brother.
Le ministère de la vérité, mini-vrai en néo-parler, offre un contraste frappant avec toute construction alentour. C'est une colossale pyramide de béton blanc étincelant, dont les degrés audacieux s'étagent jusqu'à 300 mètres dans les airs. D'où il se trouve, Winston parvient à lire en lettres élégantes sur la façade blanche les 3 slogans du parti. Guerre est paix, liberté est servitude, ignorance est puissance. Voilà un petit extrait, José Camoun, de 1984, du premier chapitre, dans votre nouvelle traduction, où justement apparaissent ciselés les phrases qui sont inscrites sur cette pyramide, qui sont un petit peu des slogans, et qui sont assez différentes des phrases qui avaient été choisies par la personne qui vous avait précédé, qui disait, elle, « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage ». L'ignorance, c'est la force. Alors, vous avez raccourci tout cela. Pourquoi ?
Pourquoi ? Mais spontanément, j'avais fait la même chose qu'Aurélie Audiberti. Et puis, j'ai remarqué cette fameuse pyramide, l'architecture pyramidale de ces quatre ministères qui sont aux quatre points cardinaux de Londres et qui représentent évidemment ce pouvoir écrasant et qu'on appellera pyramidal très fréquemment dans la conversation courante. Et j'ai bien vu ce clin d'œil d'Orwell, c'est-à-dire que ces trois slogans sont l'équivalent langagier, linguistique, de la pyramide du pouvoir qui est dans cette architecture des ministères. Et ce clin d'œil-là, il fallait, enfin, selon moi, le restituer. C'était important. C'était la pyramide du langage. Et pour avoir cette pyramide du langage, il fallait faire sauter les articles. En anglais, ça se posait pas parce qu'il n'y avait pas d'articles. En même temps, ces énoncés sont tellement, je dirais, axiomatiques. Hein, ils sont tellement comme une parole divine, en quelque sorte, qui serait tombée du ciel avec les tables de la loi, que s'ils comportaient une petite étrangeté, que la perte de l'article faisait apparaître, ben c'était pas plus mal. Donc ce n'est pas par désir de faire neuf, ce n'est pas par désir de faire même bizarre à proprement parler, c'est pour repérer cet écho dans le texte d'Orwell.
Alors c'est vrai que pour l'image que ça donne, ça représente, ça reproduit quelque chose de plus pyramidal. Par rapport à la première traduction, ça me paraît d'une certaine façon plus biblique, je dirais, et moins publicitaire. Parce que la guerre, c'est la paix, l'ignorance, c'est la force. Ce sont aussi des slogans qui ont une force publicitaire. Vous vous éloignez de la publicité, donc d'un langage matraqué d'aujourd'hui, pour revenir à un matraquage, disons, antique.
Oui, vous avez tout à fait raison, je n'y avais même pas pensé, ou en tout cas ça a été subconscient, mais je crois qu'effectivement ces énoncés-là ne peuvent pas être contestés. Dans ce sens-là, comme vous dites, ils sont bibliques, ou on pourrait dire qu'ils sont paroles d'évangile totalitaire, et ils n'ont pas ce confort de la liberté, c'est la servitude. Néanmoins, c'est très intéressant aussi, la liberté, c'est la servitude. Mais je voulais faire entendre autre chose.
Oui, avec quelque chose de plus archaïque et de plus proverbial, d'une certaine façon.
Absolument.
L'absence d'article évoque à la fois une langue peut-être biblique, mais aussi une langue française à l'ancienne. Un ancien français et une langue amoureuse des proverbes.
C'est un peu mystérieux, et donc ça ne se discute pas. Comme un proverbe, comme un commandement. Voilà, ça ne se discute pas.
Alors, vous parliez tout à l'heure, et nous parlions ensemble, de cet appendice, et vous disiez que, parfois, dans quelques éditions en anglais, l'appendice avait été supprimé. Je ne sais pas à quel moment Orwell s'est attaqué à l'appendice quand il écrivait son roman. Est-ce qu'il l'a fait au milieu, après, avant, etc. Mais je vous poserai bien la question à vous. Est-ce que vous avez traduit l'appendice d'abord ?
Ah, pas du tout. En revanche, lorsque j'ai entrepris ce travail, je pensais que l'appendice serait, pour ne rien vous cacher, un sacré morceau coriace. Et donc, je me disais, il faut que je prévoie très longtemps pour le traduire. Mais en réalité, Orwell a travaillé avec tellement de rigueur que on est contraint, mais en même temps soutenu par sa méthode, et que au fond, alors certes, d'un traducteur à l'autre, il peut y avoir des trouvailles un peu différentes. Hein. Moi, j'ai proposé Mentopolis, d'autres proposeront autre
chose.
Alors,
Mentopolis, à la place de la police de la pensée, oui. Ce qui est aussi une expression qui est devenue relativement familière.
Alors, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas retenue, parce que la police de la pensée, c'est quelque chose qui devient presque acceptable, si vous voulez, même si on le dit pour se rebeller contre cette police de la pensée, nous n'en avons pas, bien entendu, de police de la pensée. Alors que là, dans le roman, il y en a une. Là, ce qui m'a fait penser aussi que Mentopolis serait intéressant comme proposition, c'est que c'était compact. Hein, c'est thought police en anglais. Et chaque fois qu'on a du compact, qu'on a quelque chose d'un petit peu self-contained, un contenu, je trouve qu'on a quelque chose de plus percutant et qui est plus en accord avec justement cette méthode, cette solution finale pour les mots. Il faut que ça soit compact, indiscutable, insécable, j'ai envie de dire. Voilà.
Alors, est-ce que vous nous inviteriez un tout petit peu dans votre atelier de traductrice? Quand vous me dites que donc l'appendice, vous ne l'avez pas traduit au départ.
Non.
Mais par contre, est-ce que avant de prendre une traduction, disons, linéaire du texte, vous vous êtes demandé comment vous alliez traduire chacun de ces mots particuliers inventé par Orwell. C'est-à-dire que, est-ce que vous, avant même d'attaquer ce gros morceau du roman, vous vous êtes fait un glossaire en disant « je traduirai telle chose par telle chose je traduirai pas novlangue, mais... »
Je vous mentirais si je vous disais que je ne m'en suis pas préoccupée d'emblée, même si je l'ai traduit à la fin. Évidemment, parce qu'il y a des occurrences de tous ces mots, enfin de plusieurs de ces mots, dans le corps du roman. Donc chaque fois qu'ils survenaient, ça me posait question et je notais plusieurs traductions possibles et je notais les combinaisons envisageables. En réalité, comme beaucoup de traducteurs qui traduisent des textes classiques, j'ai enseigné la littérature anglaise et la traduction pendant de longues années. Donc, on enseigne aux étudiants à faire des repérages. C'est le premier travail du traducteur. Il lit, il repère des réseaux sémantiques, il repère des constructions syntaxiques, il repère une préférence de l'auteur pour l'adjectif, pour le verbe, etc. Donc, toute cette partie repérage, effectivement, je la fais, c'est même devenu une seconde nature, et par conséquent, j'avais archivé un certain nombre de possibilités pour ces mots-là.
Donc vous étiez fait un espèce de petit lexique qui vous a accompagné d'une certaine façon.
Absolument, on peut
et
dire ça.
Il a changé en cours de travail.
Tout à fait.
C'était un lexique évolutif.
Absolument. Je n'avais pas pensé à Mentopolis tout de suite. J'avais pensé à penser polis, penser, parce que je voulais quelque chose de compact, mais ça marchait pas. Donc Mentopolis m'est venu en regardant un programme télévisé appelé Mentalist.
Oui. Et est-ce que de temps en temps, justement, vous avez été influencé par le phrasé d'Orwell pour voir que tel ou tel mot ne convenait pas, tel ou tel mot allait mieux s'inscrire dans une musique de la langue qui est à la fois la vôtre en tant que traductrice et celle d'Orwell en tant que texte de départ.
Et oui, vous avez tout à fait raison, c'est le cas. Je me suis souvent demandé si les neurosciences nous expliqueraient quelque chose sur l'oralité des textes que nous lisons. Or, les neurosciences ont découvert, il n'y a pas si longtemps, que lorsque nous lisons dans notre tête, comme on dit, lorsque nous lisons bouche fermée, bien entendu, eh bien, nous nous entendons dans notre tête, nous activons des parcours d'écoute. Donc, en fait, il y a une oralité dans tout texte. Alors, bien sûr, je n'entendais pas Orwell, et pour cause, je n'ai d'ailleurs jamais entendu sa voix, je ne sais pas s'il en existe des enregistrements, mais je m'entendais le disant. Donc, effectivement, c'est une préoccupation que nous avons, traducteurs.
Et en tant que traductrice, vous oralisez souvent votre texte.
Oh que oui.
Vous traduisez à mi-voix, voire à voix haute, pour voir comment ça sonne.
Absolument, je fais ça. Alors ça dépend des textes aussi, Mais je me souviens que lorsque je traduisais La Bête qui meurt, The Dying Animal, de Philip Roth, j'allais travailler donc avec lui pendant une semaine à la fin de chaque traduction. Et comme le roman était court et qu'il savait comment je travaillais, Philip Roth a arpenté son studio pendant 5 jours, 6 jours, en me lisant intégralement le roman. Et de temps en temps, il s'interrompait et il me disait « Et chez vous, c'est quoi ?» Et je lisais ma phrase. Donc oui, l'oralité, c'est très important.
Alors ça, je ne le savais pas, je le découvre avec émerveillement, parce que j'aurais bien aimé être là. Est-ce que, alors on va déborder un petit peu de notre sujet, puisqu'on parle de la traduction en général, vous qui êtes traductrice de Philip Roth, la voix de Philip Roth, sa façon de lire, sa façon de s'approprier son texte et de vous le donner, ça a influencé la traductrice que vous êtes ?
Considérablement. Considérablement, quelquefois ça validait mes intuitions. Je vais vous en donner un exemple très très simple, d'une toute petite phrase. Nothing lasts and yet nothing passes. And nothing passes because nothing lasts. Rien ne dure et pourtant rien ne passe. Et rien ne passe justement parce que rien ne dure. Because nothing lasts. J'étais sûre qu'il y avait un accent sur ce because. Et j'avais traduit précisément. Et quand je lui ai demandé de me le lire, il l'a lu « Because nothing lasts ».
Donc vous étiez confirmé dans votre intuition.
Oui. Thank you.
José Camoun, continuons donc à parler de cette traduction, cette nouvelle traduction de George Orwell de 1984. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des nouvelles traductions. Un texte dans sa langue originale ne change pas. On va toujours le lire tel qu'il a été écrit. Par contre, et il vieillit comme il vieillit, mais de toute façon, c'est son destin. Une traduction vieillit et elle est elle peut être désuète, donc elle pousse à une nouvelle traduction. Je pensais, il y a quelques secondes en vous écoutant, aux premières traductions de Kafka, qui sont des traductions d'Alexandre Vialat, et qui portent une époque. Elles portent une personnalité, mais elles portent aussi une époque. Vous avez retraduit ça. Je ne sais pas si vous avez voulu l'actualiser, mais vous avez changé pas mal de choses quand même. J'ai eu la curiosité de reprendre le début en anglais de 1984. J'ai vu que c'était écrit au passé. Vous écrivez tout au présent. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette espèce de raccourci ?
Raccourci, c'est un mot intéressant. Ce n'était pas pour le moderniser, ce n'était pas comme j'ai entendu dans la presse, c'était astucieux, c'était drôle, parce que les jeunes sont allergiques au passé simple, ce n'est pas du tout pour ça. C'est que, en anglais, le prétérit, c'est le temps de tous les récits. C'est-à-dire que vous pouvez raconter la bataille de Waterloo au prétérit, et vous raconterez aussi, je suis sortie, j'ai croisé mon beau-frère, je suis allée au supermarché. Donc ça va de plus épique au plus prosaïque. Autrement dit, en anglais, le prétérit ne marque aucune distance entre la langue parlée, la langue usuelle, et la langue écrite. Il n'en va pas de même du passé simple français. Le passé simple français, par ailleurs, va nous entraîner dans une cascade de participes passés et d'imparfaits du subjonctif. De sorte qu'on va avoir des phrases qui, en anglais, sont ultra simples, des verbes au prétérit qui sont souvent monosyllabiques, des verbes d'action qui sont souvent monosyllabiques, comme « run »,« stock », whatever. En français, ce ne sera pas du tout la même chose. Et je me suis demandé, finalement, qu'est-ce qui allait rendre l'effet de l'anglais, cet effet d'immédiateté du prétérit, cet effet tout à fait naturel et spontané. Et à bien réfléchir, au bout de pas mal de tâtonnements, de peut-être plusieurs semaines, en tout cas au moins 30 pages au passé simple, qui ne donnait rien, qui n'était ni faite ni affaire, je suis passée au présent. Ce n'était pas pour l'actualiser, c'était pour faire passer l'urgence.
Mais c'est vrai que j'ai senti cette intention chez vous de faire passer l'urgence avec ce changement de temps et avec, de temps en temps, des phrases sans verbe. Alors qu'il y a des verbes en anglais, et en particulier dans le début du roman, les phrases sans verbe sont multiples et donnent une impression de cadence et de rapidité qui correspond, me semble-t-il, à ce côté fréquemment monosyllabique de l'anglais.
Absolument, mais écoutez, je suis... ça me met du baume au cœur d'entendre valider cette hypothèse, parce que toute traduction est une hypothèse. Les traductions, ce sont des hypothèses, des propositions. Donc, vous faisiez allusion au fait que l'original, lui, ne bougeait pas, et lorsque nous lisons du Racine, nous le lisons avec des notes, pour les enfants des écoles, donc l'original ne bouge pas. S'il est désuet ou archaïque, on lui trouvera le charme du désuet et de l'archaïque, mais la traduction, elle, évolue en effet. Et chaque traduction est une proposition nouvelle. Telle était la mienne. Et ni plus ni moins.
Et vous avez senti qu'il fallait un style particulier pour faire du José Camoun qui soit de l'Orwell et qui n'est pas du Philippe Ross et qui n'est pas de ceci, qui n'est pas de cela. Est-ce que à chaque auteur que vous traduisez, il y a une musique nouvelle que vous essayez d'inventer ?
Le comédien se met dans la peau du personnage. Le traducteur se met dans la voix du narrateur. Et c'est toute une discipline. Parce que bien entendu, vous êtes tenté de faire du... D'abord, vous en faites à votre insu du José Camoun ou du Tartempion. Vous en faites à votre insu, de le même que l'auteur lui-même se trahit par des préférences pour le rythme binaire, ternaire. Il se trahit par des préférences pour l'adjectif. Mais nous aussi, nous traducteurs, nous trahissons par notre souffle.
Ben écoutez, merci infiniment José Camoun d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre traduction est sortie dans la collection du monde entier chez Gallimard. C'est donc 1984 de George Orwell. Merci encore d'avoir été aujourd'hui l'invité de cette danse des mots qui vous est proposée par le réseau Canopée et par RFI. Sophie Janin, Véronique Durand, Yvan Amar.
Merci à vous.